16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter avec mon fidèle complice. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, nous voilà partis pour deux heures d'une balade rieuse et enrichissante à travers l'histoire. Et vous êtes un guide si merveilleux Stéphane, rien que quand vous faites visiter votre maison, déjà en voyage.
Picasso, Chagall, Renoir, Manet, mais aussi Courbet,
Toulouse-Lautrec. Et pourtant, vous n'êtes pas matérialiste pour un sou. Au contraire, vous avez plutôt la tête dans les étoiles.
Bah oui, Mathieu, mais pas autant que nos personnages du jour. Trois dames qui, elles, ont vraiment la tête dans les étoiles.
Ciel.
Comme vous dites. À commencer par Henrietta Leavitt, une scientifique qui a révolutionné l'astronomie et qui, à force d'avoir la tête dans les étoiles et de les observer, a découvert au début du XXe siècle comment mesurer leur distance par rapport à la Terre. Puis, elle aussi, bien avant elle, elle avait la tête dans les étoiles. Je vous raconte Caroline Herschel, une noble et digne prêtresse des cieux nouveaux, comme on l'a gratifiée à l'époque où le destin peu connu d'une astronome qui fut la première à découvrir un astre jusque-là jamais observé, une comète. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait, bon à 99% vrai, d'une femme plus proche de nous qui, elle, lisait dans les étoiles.
Oui, Stéphane, regardez, j'ai pris Boule à neige historiquement vôtre. Je vais lire l'avenir pour vous dans boule, pas cristal, boule plastique. Je secoue et je vois futur, enfin futur proche. Je vois 17h20. Je vois qu'on va parler Elisabeth Tessier, prestigieuse consoeur à moi.
Vous allez faire revenir François Mitterrand aussi.
Aussi.
Et avec nous, comme chaque jour, notre tout aussi prestigieux chroniqueur. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour messieurs, bonjour à tous. Écoutez, vos héroïnes ont rêvé des étoiles, les ont observées de loin. La personne dont je vais vous parler, moi, est allée dans l'espace. C'est Valentina Tereshkova, c'est même la première, la toute première femme à avoir été tutoyée les étoiles. Les Russes la surnommaient Tcheika. Vous savez ce que ça veut dire, vous qui êtes parfaitement bilingue russe. Tcheika, c'est la mouette.
Ah, c'est marrant que Tcheika veut dire mouette parce que Tchekhov, la mouette,
et oui.
Donc il
et
s'appelle
oui.
déjà un peu
et
comme...
Et c'est ça, mais vous avez raison, Revelation.
Ouais, wow, oui. Comme ça, c'est l'esprit d'escalier.
C'est une ville à fun fact.
À propos d'escalier, on va retrouver avec David Castel-Lopez. Évidemment, on part aux origines, d'habitude d'une invention, de quelque chose qui révolutionne notre quotidien aujourd'hui.
L'innovation qui a consisté à mettre les gens dans la terre, tous les uns à côté des autres, le cimetière.
Ah, voilà. C'est
j'avais
joyeux.
Fait les cimetières pour chiens l'année dernière. Ouais. Il m'a semblé que c'était, il fallait que je fasse les cimetières pour gens.
Pour gens.
Voilà. Cimetières pour gens. N'importe quoi. Il est avec nous aussi, regardez. Oui. Il est
Olivier
jovial.
Pouls.
Oui.
Vous remontez aux origines d'une recette.
D'un plat. Je vais vous parler d'un plat que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle le farcement.
Mais moi, je pensais, quand j'ai lu le farcement, je pensais que vous alliez nous parler de la manière dont on mettait la farce dans la dinde,
Non, c'est pas l'origine de la farce. Ouais. C'est un plat qui s'appelle le farcement ou le farçon, et c'est un plat qui va nous emmener en montagne.
Il va y avoir du fromage qui coule.
Alors, il va pas y avoir du fromage, mais il va y avoir de la calorie, parce qu'en général, en montagne, on aime bien les plats qui tiennent au corps.
On est content dans tous les cas. Enfin, des questions, des réponses, des protestations, parfois même des insultes envers l'arbitre.
Cocksucker.
Vers 5h-10, nous jouerons à Dare to be Alive, Stéphane. J'essaierai d'être poli pour une fois ce quiz, parfois un peu vicieux, mais nous tâcherons, Stéphane, de garder notre calme. Tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle aime ce qui brille.
Les diamants.
Non, Stéphane, les étoiles. Qu'elle a étudié au point de faire une découverte qui a changé la face du monde et surtout de l'espace. Toujours les pieds sur terre, Stéphane Bern nous raconte la trop méconnue Henrietta Leavitt, celle qui avait vraiment la tête dans les étoiles.
En ce printemps 1925, c'est un courrier comme on n'en reçoit pas tous les jours qui arrive sur les bureaux de l'observatoire astronomique de la prestigieuse Université de Harvard. La lettre vient de loin, de Scandinavie. Elle est signée du mathématicien Gustamita Gleffler, qui siège à la non moins prestigieuse Académie royale des sciences de Suède. Et la missive annonce une bonne nouvelle. L'Académie envisage de nommer un membre de l'observatoire pour l'obtention du prochain prix Nobel de physique. Fait rare, il s'agit d'une femme. Son nom, Henrietta Leavitt. Mais problème, Henrietta Leavitt est décédée, voilà 4 ans maintenant. Le prix Nobel ne pouvant être remis à titre posthume, elle ne sera donc pas la quatrième femme de l'histoire à recevoir la prestigieuse récompense et la deuxième dans une discipline scientifique après Marie Curie. C'est à un homme, Jean Perrin, qu'échoira le prix en 1926. Mais qui est donc Henrietta Leavitt? Une scientifique si peu connue, qui a pourtant révolutionné l'astronomie au point d'attirer l'attention de ses pairs masculins à une époque où les travaux des femmes sont encore souvent ignorés ou sous-évalués quand ils ne sont pas carrément attribués à des hommes. Henrietta Leavitt est née dans une famille aisée du Massachusetts en 1868 et a eu la chance de suivre de hautes études. Elle est une élève assidue et brillante au sein du Radcliffe College, un établissement réservé aux femmes réputé comme étant une sorte d'annexe de la prestigieuse université d'Harvard. Si elle s'intéresse à des disciplines variées, du grec ancien aux mathématiques, à la fin de son cursus, elle se passionne surtout pour l'astronomie et finit diplômée d'un bachelor en 1892. Enfin, diplômée, pas véritablement. À l'époque, ce titre est réservé aux seuls étudiants masculins. Henrietta n'a qu'un certificat attestant d'études équivalentes. Henrietta Leavitt intègre l'observatoire de Harvard comme assistante bénévole, l'une des rares positions que le monde de la science accorde alors aux femmes. À partir de 1895, son poste devient plus officiel. Le directeur, Edward Pickering, crée un groupe exclusivement féminin de calculatrices humaines. En effet, à une époque où l'informatique n'existe pas, de longues et fastidieuses opérations sont nécessaires pour analyser les données. Les femmes étant bien moins coûteuses que les hommes, le directeur choisit de les regrouper dans un service, désigné à l'époque par certains sous le méprisant surnom de « harem de Pickering ». De brillantes scientifiques, dont certaines laisseront leur nom dans l'histoire de l'astronomie, passent 7 heures par jour, 6 jours sur 7, à cataloguer, analyser, classer et mesurer la luminosité des étoiles grâce à des images photographiques sur plaques de verre. Le maniement des télescopes, lui, est réservé aux hommes. Ce sont pourtant ces femmes moins payées que des secrétaires qui participent grandement à faire avancer la recherche et à nourrir l'éclatante réputation de cet observatoire. Leavitt, de santé fragile, est devenue sourde à la suite d'une maladie, se focalise sur l'analyse de ce que l'on nomme des étoiles variables, celles dont la luminosité varie dans le temps de façon régulière. Pour faire simple, celles qui clignotent en quelque sorte. Ce sont ces étoiles variables qui lui permettront de révolutionner notre vision du cosmos. Concentrez-vous, Mathieu, parce que là, nous entrons dans le cœur du sujet.
C'est mon domaine.
Au fil de ses recherches, Henrietta Leavitt comprend que le clignotement des étoiles variables dépend de leur intensité lumineuse. C'est-à-dire que plus la luminosité d'un astre est forte, plus sa période de clignotement est longue. Chaque étoile a une période de variation régulière, différente des autres, qui correspond à sa luminosité absolue, ce que l'on nomme luminosité intrinsèque. C'est cette relation entre période de variation et luminosité qui constitue une loi scientifique immuable connue désormais comme relation période-luminosité. Soit, me direz-vous, mais en quoi cette luminosité intrinsèque peut-elle être utile? Restez concentré, Mathieu. La luminosité d'une étoile variable va servir à calculer sa distance avec la Terre. Comment? Eh bien, car l'intensité lumineuse d'un astre diffère à l'observation en fonction de son éloignement. Plus une source lumineuse est loin, plus son intensité nous paraît faible. Donc, en connaissant la luminosité intrinsèque d'un astre, on peut calculer sa proximité ou son éloignement. Puisque Henrietta Leavitt a découvert que les étoiles variables avaient une période de variation lumineuse qui dépend de leur intensité, en observant la variation, eh bien, on peut déterminer l'intensité et donc la distance. Avant cela et avant elle donc, on ne pouvait évaluer la distance que d'astres relativement proches au moyen des angles de position par rapport à la Terre en mouvement. Désormais, la distance des étoiles très lointaines, celle qu'Henrietta a passé des années à observer sur les plaques de verre, va pouvoir être calculée. Tout cela, vous vous en doutez, ne s'est pas fait en un jour, ni même deux. Edward Pickering, le directeur, n'appréciait pas spécialement que les femmes s'adonnent à des travaux théoriques et voulait cantonner Henrietta Leavitt aux seules observations et calculs fastidieux. Il faudra d'ailleurs attendre un nouveau supérieur pour qu'elle soit nommée en 1921 directrice du département de photométrie quelques mois avant sa mort. Mais avant, en 1908, Leavitt publie un premier rapport sur l'observation de 1777 étoiles variables, et c'est 4 ans plus tard qu'elle couche définitivement sur le papier le principe de relation entre la période de variation et la luminosité d'un astre. Si on peut désormais mesurer la distance entre la Terre et des étoiles très lointaines, ce qui était jusqu'alors incalculable, Henrietta Leavitt avait-elle réalisé que la portée de sa découverte, de son avancée gigantesque, allait en vérité bien plus loin? Dans les années 1910, la science n'a en effet pas du tout la même vision de l'univers qu'à notre époque. En gros, malgré quelques propositions iconoclastes, il est admis que l'univers se compose d'une voie lactée unique et que le Soleil s'y trouve au centre, ou en tout cas très près. Les autres amas d'étoiles visibles au télescope sont qualifiés d'amas stellaires ou de nébuleuses en spirale et considérés comme faisant partie de notre galaxie. Mais à la fin des années 1910, le directeur d'Henrietta utilise sa technique pour montrer que le Soleil n'occupe pas le centre de l'univers. Il gît en périphérie d'une voie lactée bien plus grande qu'on ne l'imaginait. C'est la seconde révolution copernicienne. En parallèle, en 1914, l'astrophysicien Herbert Curtis suppose que ces amas sont en réalité indépendants, externes. Dans les années qui suivent, ce grand débat agite le monde de l'astronomie et c'est finalement Edwin Hubble, fameux pour avoir donné son nom à un télescope spatial, qui tranche la controverse. Comment ? Eh bien, en utilisant la technique de calcul de distance des étoiles variables mise au point par notre Henrietta Leavitt. Hubble identifie des étoiles variables dans la nébuleuse d'Andromède. Grâce aux travaux d'Henrietta, il parvient à calculer leur distance d'avec la Terre, distance qui se révèle bien plus grande que ce que l'on imaginait alors et qui prouve que cette galaxie est alors externe à la nôtre. L'univers est donc en réalité composé de myriades de galaxies isolées, très éloignées les unes des autres. Plus tard, Hubble et d'autres parviennent à démontrer que ces galaxies, en plus d'être lointaines, continuent de s'éloigner à une vitesse proportionnelle à leur distance. Ceci valide la théorie d'un univers en expansion et permet donc de soutenir l'idée du Big Bang. Rien de cela n'aurait été possible sans le travail d'Henrietta Leavitt. Malheureusement, un cancer l'emporte en 1921, avant donc que l'Académie du prix Nobel ne se soit intéressée à ses travaux, comme si elle avait été condamnée à rester méconnue, elle qui dévoua pourtant son existence à l'astronomie. Ce n'est que bien plus tard que la reconnaissance viendra et même les hommages. Un cratère de la face cachée de la Lune porte aujourd'hui son nom, toujours resté dans l'ombre lui aussi. Et en 1973, une astéroïde tout juste est découverte et nommée Leavitt. Gratitude tardive, c'est certain, mais qui a le mérite de lier pour toujours Henrietta aux astres qui l'ont tant et tant passionné.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Henrietta Leavitt, nous sommes Stéphane avec une autre grande connaisseuse de l'espace. Bonjour Yael Nazé.
Bonjour.
Bonjour Yael Nazé, vous êtes astrophysicienne, maître de conférence au FNRS, fonds de recherche scientifique à l'Université de Liège. La recherche scientifique, Henrietta Leavitt l'a fait avancer, mais la reconnaissance lui a manqué. Pourquoi a-t-elle été nommée pour le prix Nobel de physique alors qu'elle était décédée depuis 4 ans ?
Parce que, à part à l'observatoire, on ne le savait pas. En fait, dans le harem, il y avait différentes personnalités et certaines des dames très connues du harem participaient à des conférences internationales et elles avaient un grand réseau, elles connaissaient plein de monde. Et donc, bon, quand elles ont été décédées, on a fait des annonces un peu partout. Mais par contre, Henrietta, elle restait dans son bureau, elle était extrêmement discrète. Et donc, finalement, les gens connaissaient un petit peu son travail, mais par contre, ne la connaissaient pas vraiment elle. Et bon, voilà, ils ne savaient rien de sa vie finalement.
Parce que ce qui est fou, c'est qu'elle n'ait pas été nommée pour le prix Nobel de son vivant et ses travaux ont mis du temps à arriver jusqu'aux oreilles de l'Académie Nobel.
Oui, mais ça c'est normal parce qu'il faut attendre un petit peu que finalement ce genre de travail montre son utilité. Et là justement, sur une décennie, la fin des années 10 au milieu des années 20, on commence à se rendre compte que cette loi est extrêmement utile et fait des révolutions véritablement dans l'univers. Et donc c'est normal qu'il faut attendre un petit peu, on va dire, l'application et voir tout ce que ça a pu apporter comme révolution en astronomie pour pouvoir vraiment nommer les gens.
Stéphane racontait dans le récit que Henrietta Leavitt s'était proposée en tant qu'assistante bénévole à Harvard. C'était en fait sa meilleure chance d'y arriver. Elle n'aurait pas été acceptée pour un travail rémunéré.
Bah, en fait, elles ont toutes commencé comme assistantes bénévoles. C'était une façon un peu de les tester. Donc déjà, on ne les payait pas beaucoup quand on les nommait. Mais avant, on les testait pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, c'était effectivement sur du travail bénévole. Il faut savoir qu'une partie de son travail bénévole a été fait en parallèle de ses études, hein, les derniers mois de ses études. Et elle était déjà assistante bénévole. Donc là, c'est normal, elle ne pouvait pas encore être payée. Mais même après, elle a continué encore quelques mois. C'était vraiment un test pour voir si elles étaient capables de faire leur travail.
Mais est-ce que les hommes étaient soumis au même test de bénévolat, si j'ose dire ? Parce qu'on a l'impression que c'est juste les femmes qui étaient bénévoles.
Bah, oui, forcément, c'était quand même un petit peu particulier, on va dire, de travailler comme ça. Mais en fait, ce qui est assez amusant, c'est que Pickering était très fier de ces femmes, de son harem. Et en fait, il a fait une pub extraordinaire à tous les observatoires américains et même à l'international, en écrivant partout, en disant, mais engagez des femmes, il faut absolument que vous les preniez, c'est moins cher, ça fait plein de boulot, c'est super pratique. Donc c'est très drôle, en fait. Il en était très fier, mais c'est vrai que, bon, voilà, au niveau des conditions, c'était pas toujours facile pour elle.
Justement, à cette époque, les tâches qui étaient confiées aux femmes étaient toujours des tâches subalternes, en tout cas... les tâches les plus ingrates, finalement, avec tous ces calculs fastidieux, c'est assez misogyne, quand même.
Mais oui, mais c'est normal. Il se réservait les choses les plus prestigieuses, évidemment. Hein, donc voilà, typiquement les trucs qui étaient un petit peu ennuyeux, les choses qui demandaient beaucoup de travail, c'était pour les filles. Et puis c'était les articles avec des découvertes étaient souvent publiés ou non des hommes. Quoi.
Dans votre livre, Yaël, Femme astronome, qui paraîtra dans quelques semaines, vous décrivez Henrietta Leavitt comme modeste et peu frivole, qui se soumet à une discipline stricte et travaille très religieusement. Est-ce que c'était la condition, si on veut, pour se faire respecter, être crédible quelque part dans cet univers d'hommes ?
Alors, elles travaillaient toutes beaucoup, hein, ces filles du harem, mais il faut reconnaître que Henrietta avait une personnalité un peu particulière. Ça vient aussi probablement de son éducation. Hein. Elle est la fille d'un prêtre. Elle est dans une ambiance extrêmement puritaine, en fait, dans sa famille. Donc, elle a des traits très particuliers. Maintenant, si vous prenez d'autres grandes dames du harem, vous prenez Annie Cannon, elle cuisait des cookies pour tout l'observatoire. C'était une femme extrêmement connue. Il y en a une autre, Williamina Fleming, qui, elle, allait assister au match de rugby et de foot américain. Donc voilà, elles étaient toutes un petit peu particulières. C'est vrai que Henrietta, par son éducation, par son contexte familial, et par sa personnalité, était beaucoup plus discrète et beaucoup plus renfermée, on va dire, que les autres. Mais par contre, elles travaillaient toutes énormément longtemps.
Vous dites pourtant, je vous cite, qu'elle faisait preuve d'une certaine modernité, puisqu'elle pensait qu'il existait une place pour les femmes dans toutes les professions. Elle a œuvré pour ça. Est-ce qu'elle a revendiqué sa place et celle des autres femmes ?
Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que comme elle était fort discrète, elle n'a pas commencé à faire des manifs ou des pétitions. Mais par contre, le fait de pouvoir être à l'observatoire et finalement d'occuper le terrain, quelque part, c'était déjà quelque chose. Et évidemment, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on est dans ce type de choses, elles sont toujours en contact avec leur université de départ. Toutes ces femmes du harem vont pousser un peu les filles à s'engager pour faire de la science, à venir à l'observatoire. Et donc, elles vont, ça va être plus un réseau informel, on va dire, mais elles vont essayer de pousser, évidemment, toutes ces femmes à faire de la science. Et c'est un soutien, je veux dire, assez fort, parce que bon, quand vous débarquez comme ça toute seule, c'est un peu compliqué, tandis qu'ici, vous savez qu'il y en a d'autres qui sont là, qui peuvent vous accueillir, qui vont vous entraîner, qui vont vous permettre de faire carrière, finalement.
Est-ce qu'à partir du moment où Henrietta Leavitt étudie les étoiles variables, est-ce que là, elle acquiert un autre statut ? Est-ce qu'elle a enfin la reconnaissance de ses collègues masculins ? Et d'ailleurs, comment sa recherche était perçue par la communauté scientifique de manière générale ?
Alors, elle était reconnue comme étant la spécialiste des étoiles variables. On l'appelait le démon des étoiles variables, tellement elle en découvrait. Donc, c'était vraiment sa spécialité. Et on savait qu'elle était extrêmement pointue sur tout ça. Et donc, quand Pickering lui a dit non, mais maintenant tu fais autre chose, le travail sur lequel il a mis était quelque chose qui était extrêmement ingrat à faire, mais extrêmement utile pour la communauté scientifique de son temps. Donc, elle était vraiment reconnue pour ça, pour être la spécialiste de tout ce qui était mesure de luminosité et découverte d'étoiles variables. Donc, elle était reconnue pour ça. Certainement.
Est-ce qu'elle a enseigné, Henrietta Leavitt ? Est-ce qu'elle a donné des cours à Harvard ?
Non, pas vraiment. Il a fallu encore attendre plusieurs années. Hein. C'est Cecilia Payne qui sera la première femme professeure à Harvard. Elle aussi faisait partie du harem, mais c'est la génération suivante. Et ici, Henrietta Leavitt, c'est plus de l'éducation informelle, comme je disais, de l'entraînement de jeunes diplômés qui vont venir commencer à mesurer les étoiles, les genres de choses, mais pas de cours formels.
Les recherches d'Henrietta Leavitt ont permis ensuite à Edwin Hubble de déterminer que l'univers est composé d'une myriade de galaxies éloignées et par là même de soutenir l'idée d'un univers en expansion et donc du Big Bang. Est-ce qu'Henrietta avait conscience de l'importance de sa recherche pour la suite des découvertes?
Alors, elle se rendait compte tout à fait de l'importance de sa découverte. Hein, et quand on lit vraiment ce qu'elle écrit dans cet article, elle sait pertinemment que ce qu'elle a trouvé, c'est un moyen d'arpenter l'univers et que c'est absolument nécessaire pour justement essayer de comprendre ce qu'on appelait la construction des cieux. Hein. Et donc, elle le sait. Elle le sait parfaitement. Et c'est pour ça qu'elle veut continuer à travailler dessus, parce que ça l'intéresse, évidemment. Mais bon, malheureusement, on ne lui a pas laissé exploiter sa découverte. Bon, malheureusement, voilà, c'était un peu l'époque... Les filles du RM n'avaient pas vraiment de choix sur des thèmes sur lesquels elles pouvaient travailler.
Et alors, ce qui est quand même complètement fou quand on écoute le récit de Stéphane, c'est qu'encore aujourd'hui, son nom est méconnu. Même le cratère qui porte son nom sur la Lune est sur la face cachée. On se fout de notre gueule à un moment. Il va falloir qu'elle soit un peu plus connue quand même. C'est pas possible. Est-ce que certains scientifiques ont tenté de minimiser son importance ou l'importance de sa découverte?
Alors, même des gens comme Hubble, hein, quand on retrouve dans certains livres où ils vont parler de ses propres découvertes, eh bien, il va totalement minimiser, se dire que oui, mais elle ne savait pas sur quoi elle est tombée. C'est quelque chose qu'on a entendu très souvent. Alors bon, depuis quand même plusieurs décennies maintenant, les choses ont été remises au point, mais sa relation ne s'appelle pas la loi de Leavitt. Hein. On connaît la loi de Hubble, mais c'est pas la loi de Leavitt, c'est la relation période-luminosité, ça reste comme ça. Donc, elle est connue, bon, voilà, elle est connue parmi les astronomes. C'est vrai qu'en dehors de la communauté astronomique, un petit peu moins. Et pour le cratère, bon, il est sur la face cachée, mais ça, c'est pas de sa faute.
Ah oui, mais...
Tout simplement, les cratères ont été nommés surtout au cours du... Enfin, la nomenclature s'est établie au cours du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Et donc, c'était avant, évidemment, les travaux de Leavitt. Donc, c'est pas de sa faute. Il a fallu trouver un autre cratère. Et ceux qu'on a trouvé plus tard, c'était sur la face cachée.
Sur la face cachée. C'est, on peut pas dire que c'est certains sciences de vie qui ont tenté de minimiser son importance.
Non, pas pour ça. C'était vraiment pour la mettre en valeur. Non. Au contraire.
Il n'y a pas une volonté cachée.
Non, là-dessus. Là, c'est juste, voilà, on a fait avec ce qu'on avait.
Bon, en tout cas, heureusement, grâce à vous, elle est sortie de l'anonymat et de la méconnaissance. Elle obtient la reconnaissance. Merci beaucoup, Yael Nazé.
Merci à vous.
Merci.
Ici, Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte, sans en avoir l'air, hein, des histoires où ça s'envoie souvent en l'air. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, on s'envoie haut, très haut dans l'espace à la rencontre de Valentina Tereshkova, la première femme à avoir tutoyé des étoiles.
Mais oui, Stéphane, parce que évidemment tout le monde connaît Gagarine, qui a voyagé dans l'espace en 1961. C'était le premier homme, donc évidemment ça a bouleversé le public. Mais Valentina Tereshkova, finalement, elle n'a laissé une trace indélébile que dans le cœur des Russes et qui aujourd'hui encore la surnomme donc Tcheïka la Mouette. Et vous savez combien de temps Gagarine a passé en orbite autour de la Terre et combien de tours il a fait de la planète? Il est resté moins de 2 heures en orbite et il n'a fait qu'un seul tour de la Terre. Alors que Valentina Tereshkova, elle l'a fait 48 tours de la Terre. C'était 2 ans seulement après Gagarine. Autrement dit, ayant tournicoté autour de la Terre 47 fois plus que Gagarine, elle est 1000 fois moins connue que lui. Ah oui, c'est hélas le lot de la plupart des héroïnes féminines. Hein. Alors, dans sa prime jeunesse, Valentina rêvait de conduire une locomotive.
Ah oui,
sans doute en hommage à son papa, son père était conducteur de tracteur et pendant la guerre, il a été réformé en conducteur de char d'assaut et il est mort au combat en 1940. Mais Valentina n'a pas pu réaliser ce rêve de conduire une locomotive parce que sa mère était assez malade, donc il fallait parer au plus pressé, s'occuper d'elle, et donc elle est devenue ouvrière dans une usine textile, ce qui était quand même nettement moins exaltant. Et comme elle était en mal de sensations fortes, elle s'est mise au parachutisme et elle a même créé un club de parachute dans son usine. Or, à l'époque, les soviétiques craignent une chose avant tout, c'est que les Américains n'envoient une femme dans l'espace avant eux. Parce que le premier record du premier homme, ça y est, ils l'ont remporté. Mais maintenant, le challenge suivant, c'est la première femme. Donc, ils se mettent à écumer les aéroclubs pour dénicher les meilleures femmes parachutistes. Parce que tout vol spatial, à l'époque, se termine par un saut en parachute. on repère 200 femmes, 5 sont sélectionnées, dont Valentina, qui est d'ailleurs absolument excellente. Elle a déjà fait 160 sauts en parachute lorsqu'elle est recrutée en mars 62. Mais en revanche, elle n'avait jamais encore sauté avec un équipement de 130 kilos. Là, c'est quand même une autre paire de manches. Donc, il faut s'entraîner. Alors, il y a plus, évidemment des épreuves qu'on a en tête, l'épreuve de la centrifugeuse. Là, ça, on voit des images d'archives, ça a l'air d'être un cauchemar. Il y a aussi la chambre sourde. La chambre sourde, c'est que vous devez passer plusieurs jours assis dans un silence total. Total, hein, il n'y a pas un son, donc il y a de quoi devenir fou. Et Valentina Tereshkova, du coup, elle se récite des poèmes de Pushkin pendant toute cette épreuve. Faut-il les connaître. Hein. Et puis, elle a évidemment aussi des cours de pilotage. Bon, c'est un entraînement absolument exténuant. Finalement, elle est choisie par Khrouchtchev et elle embarque le 16 juin 1963 à bord de Vostok 6. Un petit trait de rouge à lèvres, un soupçon de blush avant de fermer sa visière. Compte à rebours, tridra ras davai. Et ça y est, décollage depuis Baïkonour pour près de 3 jours.
Tridra adin.
Oui, bon, plutôt, excusez-moi, hein, bon voilà. Oui, effectivement, dit, mon russe n'est pas aussi...
Un compte à rebours un petit peu foireux.
Alors, il y a des petits ratés, par exemple, on lui a fourni du dentifrice, mais pas de brosse à dents. Bon, alors ça, c'est pas très grave, mais ce qui est plus grave, c'est qu'elle réalise avec effroi que sa fusée Vostok 6 n'a été programmée que pour la montée. C'est un peu gênant. Grosse bourde d'un ingénieur dont on peut imaginer qu'il eut par la suite quelques démêlés avec le commissariat politique de Baïkonour, ça l'histoire ne le dit pas. Enfin, quoi qu'il en soit...
Et comment
moment,
elle a l'air descendre
Eh ben, écoutez, finalement, elle a réussi à se saisir des commandes et à se livrer avec brio à une manœuvre extrêmement délicate. Et à 7 km du sol, là, elle s'éjecte et c'est gagné. Et alors, évidemment, grosse émotion au lendemain de son exploit, elle est invitée avec Gagarine à l'ONU, dont les membres se lèvent et la saluent longuement. Quand elle rentre en URSS, elle forme les futures femmes cosmonautes. C'est elle qui fait les honneurs de Baïkonour à Neil Armstrong, parce qu'à ce moment-là, Gagarine est mort, quand Armstrong vient à Baïkonour. Et à cette occasion, Armstrong remet à la veuve de Gagarine une copie d'une médaille à l'effigie de Gagarine qu'il avait laissée sur la Lune au moment de sa mission Apollo 11, qui est une belle idée et un beau geste amical. Bon, après ça, Valentina, elle a fait des études d'ingénieur, elle a rédigé une thèse sur le moteur de freinage pour vaisseau orbital, elle est entrée au Parlement soviétique, elle a représenté les femmes dans plusieurs instances internationales. Et 59 ans après son exploit, c'est un Russe qui détient le record de longévité dans l'espace avec 878 jours quand même. Mais aux États-Unis, c'est bien une femme, la biochimiste américaine et astronaute Peggy Winston, qui détient le record de longévité dans l'espace, 665 jours. Quant à Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace, c'est aujourd'hui une charmante vieille dame de 85 ans. Comme votre astronome Stéphane, elle a un cratère lunaire à son nom, mais elle a aussi et surtout une étoile à son nom.
Ah oui,
Ça
c'est pas mal.
C'est beau, hein. Reste que pour les Russes, elle sera toujours éternellement leur petite Tcheïka.
Mais est-ce qu'il reste encore des étoiles à nommer ?
Oh bonjour. Non, vous avez une proposition.
Vous
n'avez pas encore une étoile à votre
nom.
Non,
mais c'est pour vous que j'y pensais.
Oh, ah, c'est gentil, ça. Oui, ah bah ça c'est gentil. J'aimerais bien une étoile à mon nom. Oui,
vous brilleriez comme ça au firmament.
Oui, puis en plus ça coûte pas cher comme cadeau.
Je brille déjà sur Terre. Pourquoi voulez-vous que j'aille briller dans les étoiles ?
Oui,
déjà. Bah, ça nous ferait des vacances.
Pensez-y.
Vous voulez m'envoyer tournicoter autour de la planète, bon. Ça reste bien charitable.
C'est ce que disait Audiard, le jour où on mettra les cons en orbite.
Je serai peut-être pas la première dans le studio, messieurs, excusez-moi.
Je vous devancerai. On se retrouve justement pour le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Quand Stéphane doit décrire Clémentine, cette historienne qui chaque jour lui donne du fil à retordre dans le quiz, il dit toujours...
Un mélange entre la Vierge Marie et une professionnelle à 500 balles la nuit.
Oui, c'est comme ça qu'il vous décrit, il faut le savoir. Avant de jouer avec lui dans le quiz...
Je ne sais plus pour quel personnage...
Il me semble que c'était pour Clémentine, on vérifiera. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question est pour vous. En 1922, Monsieur Auguste Robert Kaufmann dépose un brevet, celui du posographe. C'était un objet aussi étonnant qu'utile quand on prenait une photo. Il servait à calculer le temps de pose qu'on devait prendre pour que la photo ne soit pas floue. Vrai ou faux ? Le posographe.
Alors franchement, ça ne me dit rien du tout. Le posographe.
Est-ce qu'il me paraît curieux ?
Parce que le photographe travaillait à la chambre.
Il y a graphe le dessin. Donc oui. Le posographe, c'est pas un instrument de temps.
Non.
Ça serait un chronomètre, un podomètre. Non, ça c'est pour la distance ou la durée. Mais posographe, non.
C'est le mot graphe qui vous...
Oui, c'est le mot graphe qui me descend,
me gêne. Oui, graphe, c'est le graphisme, donc il y a l'écriture. Non, moi je dirais non, parce que ça ne me dit rien.
Oui, moi je dirais pareil que vous, Stéphane.
Je dirais non.
Vous avez...
Et c'est un quiz qui démarre bien. Vous avez perdu, Stéphane. À l'époque, quand on prenait une photo, il y avait beaucoup de réglages à faire. Le posographe était une sorte de calculatrice. On entrait la teinte du sujet, la lumière ambiante, l'ouverture du diaphragme, l'état du ciel, etc. Et le posographe vous donnait le temps que vous deviez rester devant l'objectif pour que la photo soit réussie.
Ah oui.
Ça, d'accord, mais je trouve que le nom est impropre pour désigner un engin destiné, en effet, à calculer le temps de pose.
Un engin de mesure, le polygraphe, le détecteur de mensonges, on dit...
Mais c'est pour ça qu'on faisait d'ailleurs des photos des morts, parce que eux, au moins, les photos n'étaient jamais floues parce qu'ils bougeaient pas. Alors que le temps de pose était très très long avec les premiers instruments photographiques.
J'ai pensé à vous, j'ai visité l'expo Napoléon, il y a le masque mortuaire de Napoléon.
Ah, ne me lancez pas là-dessus.
Ça a dû vous émouvoir.
Vous voulez rire, mais des masques mortuaires, il y en a plusieurs.
Vous en avez chez vous? Les morts vous regardent?
Non, j'en ai pas un chez moi, mais il y a une grande polémique autour de l'authenticité des masques, le premier qui a été fait par Anto Marchi avec du mauvais plâtre qui a été cassé par Madame Bertrand parce que Napoléon n'a posé qu'une fois sur le vif pour un masque. C'est le Baden masque, qui est celui dont on se dit qu'il est le plus proche de ce qu'il était de son vivant, puisque Napoléon, il n'avait pas de posographe et il détestait poser. D'accord. C'était un homme qui était trop suractif. Il fallait pas lui demander de poser. Non, me lancez pas sur le masque.
Vous m'avez gâché mon expo.
Non, l'autre, il a vu un masque mortuaire, il est là tout affriolé.
Je suis affriolé. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Juste selon la Bible, on n'a pas le droit de pratiquer le cannibalisme. C'est écrit, je le dis de mémoire, je crois que c'est dans le Lévitique 26, verset 29.
C'est pas le Lévitique, ce serait plutôt
le Lévitique. C'est pour cette raison que le pape Paul VI n'a pas pu officiellement pardonner aux survivants du drame du crash aérien de la Cordillère des Andes survenu en 1972, puisque vous savez qu'ils se sont becquetés entre eux. Ouais. Vrai ou faux? L'Église n'a pas pu accorder son pardon à ces survivants cannibales.
Je pense que c'est le mieux, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que l'abomination de l'abomination n'est pas dans le Lévitique, n'est pas le cannibalisme. Je ne sache pas qu'il soit mentionné dans le Lévitique. Dans l'abomination de l'abomination, c'est Sodome et Gomorre dans le Lévitique. C'est vraiment ça.
Il y a pas pire.
Il y a pas pire. Non.
Oui, mais bien sûr. Le cannibalisme.
Vous êtes fait ça avant de se manger.
Pardon Stéphane, partagez avec nous.
Oh non, ils avaient trop froid.
Ne vous étouffez pas avec votre
ils étaient frigorifiés.
Et partagez avec nous. C'est-à-dire que vous pensez qu'avant, de se déguster, les rescapés de la Cordillère des Andes auraient eu des pratiques un petit peu comme ça à la Sodome et Gomorre. C'est votre théorie. Vous avez enquêté là-dessus.
Non.
Alors vous auriez, mais bon.
Bon, écoutez, moi je pense que. Je pense que c'est.
Qu'est-ce que vous pensez?
Je pense que c'est possible.
Au moins quelqu'un pense.
Je pense que c'est possible. Je réponds oui.
Ça, c'est. Eh bien, voilà un quiz qui continue fort bien, puisque vous avez perdu. Quand l'Église fait quelque chose de bien, il faut le signaler. Elle a pardonné officiellement au nom de l'Église. Et voilà, il faut le dire quand le pape décide.
Je l'ai dit, vous avez raison, j'ai été sotte. Parce que...
Vous n'êtes pas seul.
Non. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Frédéric Bob, l'inventeur du Digicode, en 1970, est mort en 2007. Sur son cercueil, il a mis un Digicode, mais lui seul a le code. Vrai ou faux?
C'est drôle.
Ça serait drôle, mais non, c'est pas crédible.
Pas crédible.
On met pas un digicode sur un cercueil, franchement.
Écoutez, ça serait rigolo. Il aurait pu faire ça comme une ultime facétie.
On met pas un digicode sur un cercueil.
Il y a eu des choses autrement plus étranges.
Cela dit, comme de toute façon, il est le seul à avoir le code. Sauf si le code a changé, comme
il a reçu la lettre du syndic. Ah mince, il peut plus ouvrir.
Personne n'a envie d'ouvrir un cercueil.
Non, c'est vrai.
Non, ça pourrait être un faux digicode posé sur le cercueil ou dessiné. En tout cas, ça sera un clin d'œil amusant.
Un clin d'œil amusant, mais Mais franchement.
Mais vous aviez l'air de connaître Frédéric Bohr. Non, pas du tout.
Non, moi, j'ai pensé, non, non, vous avez fait moi, j'ai pensé que vous, vous parliez du Bohr inventé
je dirais,
par
non, tout
Thénard.
Est faux.
Tout est faux.
Tout est faux.
Tout est faux.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse. Tout est faux. L'inventeur du digicode est pas... Bob Carrière, voilà. Un Français, mais il n'a pas mis de digicode sur son cercueil. En revanche, Frédéric Bohr est l'inventeur du tube qui emballe les chips Pringles. Et ses cendres sont dans une urne sous la forme d'un paquet Pringles, car il avait beaucoup d'humour. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, j'attends là une bonne réponse. Depuis 1909, en Suisse, à Genève, vous pouvez admirer la statue de l'ange Franqui. Cette œuvre est officiellement réclamée par le musée des Beaux-Arts de Strasbourg, même si juridiquement et légalement, rien ne peut obliger une telle transaction. Vrai ou faux ?
Qui est-ce l'ange Franqui ?
L'ange Franqui serait une statue pour avoir à Genève depuis 1909. C'est ma question.
Alors, c'est une statue qui se trouve à Genève depuis 1909, mais dont l'Alsace aurait la propriété.
Et l'Alsace est contestée, en tout cas.
La propriété de cette statue est contestée. L'ange Franqui.
Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'ange Franqui ?
Non, ça ne me dit rien du tout.
Eh bien, alors, peut-être pouvez-vous me donner une réponse.
Je veux répondre oui, mais...
Non, peut-être vous pouvez me donner une autre réponse.
Alors, je... Non, pas du tout, parce que finalement, les relations sont très bonnes entre l'Alsace et la Suisse.
Écoutez ça, Stéphane, l'art moderne n'a pas de secret pour Clémentine, qui sait bien sûr que l'ange Franqui n'est pas une statue. Qu'est-ce que c'est l'ange Franqui ? Vous n'êtes jamais allé en Suisse. L'ange Franqui, c'est la personne en Suisse qui ne boit pas quand on va dans une soirée. En France, on dit ça.
Oui,
en Belgique, c'est bon.
Voulez-vous que je sache ça ? Moi, je bois dans les soirées.
c'est son mari qui conduit.
C'est votre mari, votre
exact.
Mari et l'ange Franqui. Si
d'accord.
Vous êtes en Suisse. Ah, la question qui va vous départager. Attention, c'est la question de rapidité. Jacques Chirac avait, vous le savez, un humour de haute volée. Une marque d'un produit particulier lui inspirait une blague de façon quasi systématique. Laquelle de ces marques ? Quatre propositions. Le chocolat blanc Galac, les matelas Treka, la bière La Chouffe ou les magasins Mammouth.
Mammouth,
Treka.
Bon. Vous avez le jeu de mots avec Treka ?
Je pensais au dragée Fuka qui aurait pu inspirer, mais ça arrive d'avoir une Treka.
Treka.
Non, ou. Le premier, c'est quoi ?
Le chocolat blanc Galac.
Oui, hein, je veux dire Galac.
Mais non, mais ne dites.
Moi, je reste sur le mammouth.
Vous restez sur le mammouth, Stéphane. Je vous donne l'opportunité de donner la réponse.
Alors, Treka.
Treka, c'est une bonne réponse de Stéphane Bern qui remporte le quiz au forceps, mais il remporte le quiz quand même. Les matelas Treka, ça a inspiré Jacques Chirac. Il disait, quand une militante politique ou une journaliste plutôt jolie croisait le regard de l'ancien président, il aimait s'exclamer, je cite, c'est une autre époque, hein, « Vite, un matelas Treka pour niquer sans tracas ». Voilà, c'était la formule de Jacques Chirac.
Ah,
c'était
oui,
un autre temps,
ami de la poésie,
mœurs, un autre humour, mais voilà. On l'embrasse. Belle victoire,
enfin,
Stéphane.
Il est mort, maintenant.
Oui, oui, bah, là où il est.
Est-ce qu'il a mis un digicode sur son cercueil ?
Vous ne savez pas, les gens, peut-être, là-haut, nous écoutent, Stéphane.
Ah, j'espère, oui. ça nous doublerait notre audience.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Stéphane est venu avec son télescope, car aujourd'hui, on scrute les étoiles.
Oui, et surtout Mathieu, c'est Dame qui avait la tête dans les étoiles. Après Henrietta Leavitt, l'astronome grâce à qui on sait depuis mesurer la distance des étoiles par rapport à la Terre, je vous raconte Caroline Herschel, celle qui, bien avant elle, avait aussi les yeux tournés vers le ciel et d'un coup, comme une comète. Ça, c'est chouette. Une découverte qui a fait sacrément progresser l'astronomie, vous verrez, oui. De votre côté,
Stéphane,
Mathieu,
oui. Je vous aime, Stéphane. Oui. Tout simplement, je tenais à vous le dire.
Oui,
officiellement,
merci. C'est gentil, moi aussi. De votre côté, Mathieu, bon, vous nous parlerez d'une femme qui a aussi et toujours, surtout, la tête dans les étoiles, mais avec un but précis. Celui de deviner l'avenir et de vendre des livres.
Aussi, oui. Je sais que c'est une question que vous ne vous posez absolument pas, mais j'essaie d'y répondre quand même. Que devient Elisabeth Tessier ?
Bon, en fait, en vérité, on s'en fout.
Non, Stéphane, c'est passionnant. D'autant que je vous raconterai ces années Mitterrand.
Oh oui.
Oh oui, voyez, ça vous intéresse.
Oui. Sans oublier nos célèbres chroniqueurs. David Castello-Lopez qui nous raconte les origines des cimetières des gens.
Pas, on va tout à fait, on va essayer de rigoler un petit peu malgré le... Non, parce que c'est un peu marrant la mort aussi.
Oh, la mort peut être très marrante.
Et puis Olivier Pouls, alors là, on est dans un autre registre, enfin c'est des choses qui se consomment davantage, c'est le farcement.
Mais c'est vrai que quand on parle des plats de montagne, on connaît davantage la tartiflette. Oui. Et en fait, ce plat, il est très ancien, c'est une espèce de gâteau un peu sucré-salé. Non, c'est un plat complet et il y a un petit côté un peu sucré-salé dedans et c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans les villages et on utilisait notamment les fours de boulanger pour les cuire.
Eh bien écoutez, vous nous ferez déguster ce délicieux gâteau sucré-salé tout à l'heure, le farcement. Enfin, c'est le seul jeu radiophonique où vous entendrez un animateur pourtant célèbre et respecté prononcer des phrases comme...
Alors je vous la demande en centimètres.
La lutte finale, le quiz loufoque de tous contre tous, ce sera en toute fin d'émission. Mais d'abord, partons à la rencontre de notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Son destin semblait tout tracé. Elle a décidé de relever la tête haut, très haut, vers le ciel et de le changer. Lui est parfois tête en l'air aussi.
Ouh, où êtes-vous ? On vous cherche partout.
Je suis là, Stéphane. Stéphane Bern nous raconte l'astronome Caroline Herschel.
Lorsqu'on est une femme au XVIIIe siècle, la vie n'offre en général que peu de choix. Et il y a fort à parier que Caroline Herschel aurait eu bien du mal à s'imaginer une telle destinée. Caroline Herschel est née en 1750 à Hanovre, en Allemagne, dans une famille nombreuse qui ne roule pas sur l'or. Après la variole à 4 ans, qui marque à jamais son visage, c'est le typhus qui manque de l'emporter à l'âge de 10 ans et dont les séquelles vont bloquer sa croissance. Caroline ne dépassera guère le 1m40. Ses épreuves sont en quelque sorte ce qui la détourne d'un avenir tout tracé, comme pour toutes les femmes de son époque, celui d'épouse. Sa mère, considérant qu'elle est désormais impossible à marier, dessine un autre destin pour Caroline, pas forcément plus enviable, domestique de la famille. Or, son destin va changer après la mort de son père. Ses grands frères, William et Alexander, sont partis depuis longtemps vivre à Bath, en Angleterre, où William mène une brillante carrière de musicien. Il propose alors à Caroline de le rejoindre et prend soin de convaincre leur mère en lui payant un nouveau domestique. En 1772, Caroline Herschel change donc radicalement de vie. Adieu l'Allemagne et sa mère, bonjour son frère et l'Angleterre. À la lecture de ses lettres et notes compilées après sa mort pour former ce qui se nomme ses mémoires, il n'est pas toujours aisé de comprendre où se situe la volonté de Caroline Herschel. Comme si elle avait si bien assimilé sa condition de femme dont les désirs et les souhaits n'ont pas à s'exprimer, elle semble maintenant qu'elle vit auprès de son frère, toujours acceptée de suivre ses pas avec une étonnante abnégation, pour ne pas dire soumission. Comme William est musicien, Caroline devient chanteuse. Il la forme au clavecin et aux techniques vocales à raison de 2 ou 3 séances par jour pendant qu'elle s'occupe bien entendu de tenir la maison. Elle devient une talentueuse soprano, chantant soliste sous la direction de William dans les églises de Bath jusqu'à se faire un petit nom et même se voir proposer de prestigieux contrats à la fin des années 1770. Mais ne souhaitant pas se désolidariser de son frère, Caroline Herschel préfère décliner et sa carrière s'arrête presque là. Mais une autre, en parallèle, a déjà commencé. William Herschel est depuis quelque temps déjà versé dans l'astronomie. Attiré par les étoiles, il décide d'améliorer le télescope mis au point par Newton avec son système à deux miroirs plus efficace qu'une lunette à lentilles. William n'a de cesse de toujours perfectionner et agrandir les télescopes qu'il fabrique lui-même, avec l'aide de Caroline, en polissant des plaques de verre pour façonner des miroirs paraboliques. Polir, encore et toujours, devient l'une des grandes occupations de la fratrie. Les instruments techniques remplacent ceux de musique et chaque pièce de la maison devient un atelier. Les soirées sont désormais dédiées à l'observation des cieux. Caroline assiste son frère en même temps qu'elle apprend les noms des constellations, se forme aux mathématiques et à la cartographie du ciel. Après avoir découvert la planète Uranus, William Herschel obtient le titre d'astronome du roi en 1782, année où lui et sa sœur donnent leur dernier concert public, signe que cette fois, c'en est vraiment terminé de la musique. William est désormais un astronome professionnel. Caroline est son assistante. Elle note ses observations, l'accompagne dans ses longues nuits restant au bas du télescope. Il faut imaginer dans le jardin une énorme machinerie posée sur une charpente de bois. Les engins deviennent de plus en plus imposants, jusqu'à 12 mètres de long. Fidèle petit chiot, auquel elle s'est elle-même comparée, par humilité ou par aigreur, nul ne le sait, elle reste là, en bas. Comme cette nuit où son frère la priant de se dépêcher pour l'aider, elle se retrouve embrochée sur un crochet de la structure. Elle se plaindra à peine devant les épais lambeaux de chair arrachés à ses cuisses. En 1786, William et Caroline déménagent dans une nouvelle maison plus propice à l'observation astronomique qui occupe tout leur temps. S'il n'y avait parfois l'intervention des nuages, écrit-elle, je ne sais pas comment mon frère et moi pourrions trouver du repos. C'est dans ce nouveau jardin que Caroline passe la soirée du 1er août, armée de son télescope. Son frère est en voyage. Elle profite du calme et de la clarté pour balayer une partie du ciel. À 22h, elle repère quelque chose qui ressemble à une nébuleuse, telle que l'on nomme alors les galaxies. Mais la forme parfaitement ronde l'intrigue. Il semble de plus que l'astre soit en mouvement. Caroline prend pour repère deux étoiles proches et note consciencieusement leur position sur un carnet. Le lendemain, elle scrute à nouveau la même zone du ciel. L'astre qu'elle avait repéré s'est en effet déplacé par rapport aux autres étoiles et sa course est rapide. Cela signifie qu'il s'agit d'une comète. Dans les jours suivants, Herschel écrit à la prestigieuse Royal Society, sorte d'Académie des sciences, qui atteste quelque temps plus tard que cet astre n'a jamais été observé. Caroline Herschel est donc officiellement la première femme à découvrir une comète. La première d'une longue série. Elle en identifiera 7 autres sur les 11 prochaines années. Caroline n'est plus seulement la fidèle et pâle ombre de son frère, elle est désormais une astronome à part entière, même si c'est bien au titre d'assistante que le roi lui octroie une rente annuelle de 50 livres en 1787, ce qui constitue là encore une première pour une femme. L'année suivante, William se marie. On ne sait pas trop si elle vit bien ou mal cette indépendance forcée, mais Caroline continue à longueur de notes de penser à lui, de s'inquiéter pour sa santé, ne cesse de craindre le pire jusqu'au jour où son frère tant aimé disparaît. Nous sommes en 1822. Le coup est dur pour Caroline, si dur qu'elle décide, à 70 ans passés, de rentrer en Allemagne. Mais il n'est pas question, même à son âge, d'abandonner l'astronomie, qui est devenue le principal but de sa vie. Herschel travaille notamment à la révision du catalogue des étoiles alors connu, une entreprise colossale pour laquelle elle sera récompensée d'une médaille d'or de la Royal Astronomical Society en 1828. Aucune femme ne la recevra à nouveau avant Vera Rubin en 1996. Toute sa vie, qui fut longue, puisqu'elle meurt en 1848 à l'âge de 97 ans, Caroline Herschel n'a cessé de correspondre avec toutes les sociétés savantes. Elle est traitée avec les égards qui lui sont dus et parfois même l'admiration de certains scientifiques, comme ce professeur allemand qui la gratifie dans une lettre du plus beau titre que l'on puisse donner à une femme qui passa sa vie à regarder les étoiles, noble et digne prêtresse des cieux nouveaux. Quoi de mieux pour cette pionnière qui passe sa vie à comprendre le ciel.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour mieux connaître encore Caroline Herschel, nous sommes avec un homme qui manie aussi bien l'histoire que les sciences. Bonjour Stéphane Van Damme.
Bonjour.
Bonjour Stéphane Van Damme, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'École normale supérieure, spécialisé dans l'histoire des sciences et des savoirs de la Renaissance aux Lumières. Comment se fait-il que cette femme, réduite au statut de domestique dans sa propre famille, ait pu se révéler aussi brillante par la suite? Comment s'est-elle formée?
En fait, c'est tout à fait intéressant. Ça reflète la trajectoire de bon nombre de familles où l'éducation scientifique se fait à l'intérieur de la maison, entre frères et sœurs, ou entre parents et enfants. Et d'une certaine manière, on a des cas similaires avec la famille Lavoisier, avec la famille Condorcet, la famille Buffon. Donc, c'est une trajectoire tout à fait typique de la haute société, où effectivement l'éducation scientifique se transmet souvent non pas par l'école mais au sein du cercle familial.
Vous personnellement, qu'est-ce qui vous frappe dans la figure, le destin de Caroline Herschel? Est-ce qu'elle a une particularité que les autres femmes scientifiques de son temps n'ont pas?
Alors, ce qui frappe, bon, comme je viens de le dire, c'est d'abord le parallèle avec d'autres femmes exceptionnelles, oui, comme Madame Lavoisier, par exemple, pour la chimie. Son rôle ici est beaucoup plus important parce qu'on a bien voulu lui reconnaître un statut de scientifique, d'astronome. On est encore dans une définition du monde scientifique qui est celui d'un monde d'amateurs, en fait. On n'a pas encore une vision formation d'astronomes professionnels. Et donc, il y a de la place pour des passionnés, hein, pour des gens qui pratiquent l'astronomie comme un loisir aristocratique. Et alors, évidemment, en ce qui concerne Caroline, c'est la reconnaissance apportée par donc la Royal Society, cette société savante patronnée par le roi, qui va évidemment lui conférer un statut tout à fait exceptionnel. Hein. Ni Madame Lavoisier, ni d'autres scientifiques de son temps ne vont avoir la même reconnaissance.
Stéphane racontait dans le récit que Caroline Herschel faisait preuve d'une grande humilité, d'une grande abnégation, voire même de soumission. Elle était entièrement au service de son frère et de ses travaux. Il a donc fallu qu'elle attende que son frère parte en voyage pour oser elle-même toucher au télescope et observer les étoiles.
Alors oui, alors bon, c'est vrai factuellement. En fait, c'est vrai que son frère va progressivement lui laisser le soin de prendre elle-même des initiatives. Mmh. Alors, l'astronomie, c'est une pratique hein, qui requiert une très grande précision, une grande patience, mais aussi une discipline du corps. Et vous avez beaucoup insisté hein, dans votre récit hein, sur cette manière dont elle va aussi faire preuve d'abnégation. Et je pense que c'est très intéressant. Voilà, c'est des longues nuits d'hiver, hein, souvent, hein, puisque c'est un moment où le ciel est dégagé, où on va pouvoir observer ces phénomènes, les phénomènes mobiles, par exemple, effectivement, la trajectoire d'un certain nombre de corps célestes. Et là, pour ce type d'activité, effectivement, elle est particulièrement bonne, et elle nous a laissé donc ses mémoires, son autobiographie, où elle détaille toute cette activité, et on voit qu'elle fait preuve de discipline. Discipline, c'est le mot qui va caractériser la pratique astronomique à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle.
Et d'ailleurs, Stéphane, pour qu'on visualise un peu mieux, il ressemblait à quoi ce télescope à l'époque ? On a du mal à se le représenter.
Les Herschel, qui fabriquent eux-mêmes leurs télescopes, vont utiliser des télescopes réflecteurs, donc à partir de miroirs. Ce sont des télescopes qui sont ouverts, hein, avec des miroirs en forme de parabole, qui sont exposés à l'air ambiant. Hein, et donc, c'est sur la surface de ces miroirs que se projette l'image du ciel.
Lorsque Caroline Herschel découvre de nouvelles comètes, comment est-ce que réagit la communauté scientifique ? Certains ont douté de la véracité de sa découverte ?
Alors, c'est ça qui est très intéressant. Caroline va bénéficier, évidemment, de la reconnaissance de son frère, hein, qui est devenu astronome du roi, astronome à la cour. Et donc, il ne va pas y avoir de doute hein, par rapport à ses observations. Elle va immédiatement pouvoir publier ses observations dans le journal de la Royal Society. Donc, c'est quand même une reconnaissance immédiate, même si on sait, par ailleurs, qu'elle fera l'objet, par exemple, de caricatures dans la presse, etc. C'est-à-dire que cette dimension genrée, cette dimension féminine de la découverte scientifique pour le grand public est un peu plus problématique. Hein. D'une certaine manière, elle fait figure de femme savante qu'on aime tourner en ridicule.
Les comètes, est-ce que ça générait un engouement à l'époque, une fascination comme aujourd'hui, ou alors est-ce que ces objets mouvants dans le ciel, ça faisait plutôt peur ?
Au XVIIIe siècle, on n'est plus tout à fait dans ce type de... Il y a vraiment une dimension scientifique qui prend le relais, parce qu'au milieu du XVIIIe siècle, on a, avec la comète de Halley, on a compris hein, que ces comètes, en fait, obéissaient à des trajectoires qui se répétaient. Hein, donc, on attendait le retour de la comète, on savait la calculer, etc. Donc, la science, de ce point de vue-là, a calmé, hein, d'une certaine manière, les angoisses et les peurs.
Dans l'ouvrage que vous avez dirigé, Histoire des sciences et des savoirs de la Renaissance aux Lumières, vous écrivez que la période 1500-1700 fut une sorte d'âge d'or pour l'activité scientifique des femmes en Europe. Mais que ce n'est plus le cas après 1750, qui est justement la période qui nous intéresse, dans laquelle s'ancre Caroline Herschel. Comment vous l'expliquez ?
À partir de 1750, ce monde va se professionnaliser et se professionnaliser avec des caractères qu'on connaît déjà pour d'autres professions, c'est-à-dire une masculinisation, évidemment, avec une figure beaucoup plus héroïque hein, du scientifique. Et les femmes, donc, vont être reléguées hein, soit à des tâches secondaires, subalternes, d'assistantes. Hein, donc souvent, elle calcule, par exemple, ou elle prépare les observations. Elles vont être carrément exclues hein, des grands cénacles académiques et scientifiques.
Merci beaucoup, Stéphane Vandamme. Je rappelle l'ouvrage que vous avez dirigé, « Histoire des sciences et des savoirs », tome 1, de la Renaissance aux Lumières, qui est paru aux éditions du Seuil. Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on réunit trois dames qui ont la tête dans les étoiles. Après Henrietta Leavitt et Caroline Herschel, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une contemporaine qui scrute toujours les étoiles, mais pour y lire l'avenir, c'est Elisabeth Tessier.
Ah oui, Stéphane est ravi. Aujourd'hui, il a son regard gourmand car nous pénétrons dans le domaine de l'occulte. Or, Stéphane, je le sais, vous adorez l'occulte. Vous faites en effet partie de ces rares conseillers du président de la République qui croient en l'astrologie. Il y a une époque, sous Mitterrand, où vous seriez senti moins seul à l'Élysée car on écoutait plus les thèmes astro d'Elisabeth Tessier que les sondages de l'IFOP. Comment une discipline à l'efficacité et la méthodologie si discutable a-t-elle pu s'inviter sous les ors de la République? Comment une astrologue, aussi talentueuse soit-elle, a-t-elle pu avoir l'oreille, et dit-on un peu plus, d'un président de la République, en l'occurrence François Mitterrand?
Ah oui, lui, il était dirigé par sa guéquette. Hein.
C'est évidemment, c'est pas un élément de réponse, mais nous verrons qu'il n'est pas le seul. Car comme vous, François Mitterrand croyait aux forces de l'esprit. Si bien qu'en 91, pendant la guerre du Golfe, quand il hésite sur le moment propice pour s'adresser aux Français, il se tourne vers les étoiles. Elisabeth Tessier, qui avait demandé l'autorisation au président, a enregistré leur conversation. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, là, entend-on s'interroger l'astrologue sur la bande magnétique? Mardi 5, les échanges sont difficiles. Mercredi 6, alors là, je sais que c'est ennuyeux pour vous. Vous avez le conseil des ministres, je crois, mais malheureusement, il y a dans votre ciel une marque de confusion dans les échanges. En revanche, vous avez le 7 au soir, un très très bon créneau. Or, que s'est-il passé le 7 février 1991 au soir? Eh oui, François Mitterrand apparaît à la télévision pour parler au pays. C'est dire à quel point Elisabeth Tessier était devenue, au début des années 90, la reine de l'astrologie. Notez que, comparativement à d'autres pays, il y a peu d'astrologues stars en France. Les Français sont réputés pour leur cynisme et leur côté Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Être astrologue au pays de Descartes, c'est comme vendre des strings à Kaboul. Tu pars avec un léger handicap. Mais Elisabeth Tessier a réussi à prendre ce créneau et personne ne l'a jamais délogé. Sur la plaque de son cabinet, si toutefois elle avait un cabinet, elle pourrait fièrement écrire « Docteur Tessier, prévision à la louche depuis 40 ans ». Alors, je sais, David, le peu d'estime que vous avez pour son travail, vous me disiez hors antenne, et j'ai trouvé ça assez méchant, Elisabeth Tessier, c'est Paul le Poulpe avec des nibards. Non, non, il y a de la sincérité chez Elisabeth Tessier qui croit vraiment en sa discipline et encaisse courageusement les critiques. « Je suis la figure emblématique de l'astrologie, celle sur laquelle on tire », déclare-t-elle. Et si on se moque d'elle, c'est bien sûr que ses prédictions tombent assez rarement justes. Exemple, la victoire supposée de l'équipe de France de foot à l'Euro 2008, qu'on a misérablement perdu, ou l'horoscope du 11 septembre 2001, vu par l'astrologue, je cite, comme « un jour heureux pour les transports ». C'était une très belle prévision. Ou encore la prédiction selon laquelle l'année 2011 serait pour Dominique Strauss-Kahn une année géniale. Bon alors écoutez, à l'écouter, Elisabeth aurait quand même prévu la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, l'explosion de la navette spatiale Challenger, enfin, en parlant avec une précision percutante de période néfaste pour les États-Unis. Elisabeth Tessier naît le 6 janvier 1938 à Alger. Son père Walter est suisse et gémeaux, sa mère Germaine est française et gémeaux également. Ils ont deux enfants qu'ils vont appeler Walter et Germaine. Oui, j'ai vérifié, ils ont vraiment fait ça. Germaine, c'est notre future Elisabeth, qui certainement se dira, lorsqu'elle deviendra mannequin, que Germaine, c'est pas vraiment très glamour. Germaine déménage beaucoup, de Berne à Casablanca, en passant par la Haute-Loire, Chambéry, puis enfin Paris. Ses parents aimeraient qu'elle se marie vite, mais elle n'en a cure. Elle entame un cursus de médecine, puis abandonne pour un DEA en lettres modernes. Finalement, elle suit le conseil de ses parents et épouse en 1960 l'ingénieur André Tessier du Croc, dont elle prend le nom et devient donc officiellement Elisabeth Tessier. Elle s'essaye au beau métier de prof de français dans un lycée de Lyon, mais abandonne au bout de quelques semaines suite à une rencontre dans un café. Un photographe la repère et lui propose de faire la couverture de Elle. Elisabeth devient mannequin. Entre 64 et 75, elle pose pour Coco Chanel, puis ensuite elle devient actrice. Elle fera un joli brin de carrière, une quinzaine de films, relevant du registre de ce qu'on appelait alors l'érotique soft. Qu'est-ce que l'érotique soft ? C'est quand on n'y voit pas les poils, disait mon père. David, vous avez peut-être une façon plus élégante de le dire.
C'est une façon de faire l'amour sans le zizi.
Voilà. Mais c'est en 1968 que la vie d'Elisabeth Tessier change de tout au tout quand elle rencontre l'astrologue Henri-Joseph Gouchon. Avec Riton, pour la première fois, elle va lever la tête vers le ciel. Sous sa houlette, elle étudie les astres et 7 ans plus tard, elle devient officiellement astrologue. Première chronique télé et dans la presse. Et c'est en 75, sur Antenne 2, qu'elle lance le premier horoscope télévisé, une séquence qui visiblement ne laisse pas indifférent le futur président François Mitterrand, qui aura recours à elle donc comme conseillère très particulière entre 89 et 95. Petite anecdote, Stéphane, que s'est-il passé le 21 janvier 1991 ?
Elle avait fait une petite gâterie au président de la République.
Non, non, je veux dire, que s'est-il passé d'inhabituel ce jour-là ? Eh bien, ce jour-là, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Défense, a démissionné. Or, quelques jours auparavant, Elisabeth avait dit au président, qui lui avait demandé le thème astral de Chevènement, « Oh là 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 là, la prochaine lune du 29 janvier est très mauvaise pour lui !» « Je ne croyais pas si bien dire », se félicitera rétrospectivement l'astrologue.
Incroyable.
Alors, je sais Stéphane que vous aimeriez que je m'épanche plus longuement sur la nature exacte de ces petits entretiens astrologiques à l'Élysée, mais non, je ne flatterai pas vos bas instincts. En revanche, je vous dirais qu'on sait que François Mitterrand, visiblement très satisfait des services astrologiques d'Elisabeth, lui a filé un coup de pouce afin qu'elle puisse soutenir une thèse à la Sorbonne. Le thème, accrochez-vous, donc c'est véridique, situation épistémologique de l'astrologie à travers l'ambivalence fascination-rejet dans les sociétés postmodernes. Et voilà notre Babette propulsée docteur en sociologie. Mais elle en veut toujours plus et souhaite faire entrer l'astrologie à l'université. Là, c'est la goutte d'eau pour le milieu universitaire qui voit rouge. Qu'à cela ne tienne, même si la chaire d'astrologie de la Sorbonne reste toujours vacante, Elisabeth continue de croire à ses bonnes étoiles et en l'amour. En 2011, elle se marie à nouveau à 73 ans avec Gerhard Hinek, lui aussi, je cite Gala, fervent défenseur du pouvoir des planètes. Ils se disent oui le 4 novembre 2011 à 11h47 précise. Elle explique qu'il s'agit, je cite, « du moment idéal pour sceller notre amour. Début novembre marque le commencement du cycle Jupiter-Pluton, particulièrement favorable à nos deux horoscopes. Voyons déjà ce qu'elle avait prédit pour 2021, maintenant qu'on a un peu de recul. Je lis « Malheureusement, les astres ne sont pas très harmoniques début 2021 avec Jupiter, Saturne, Uranus, alors que ces trois planètes se trouveront en dissonance. Si vous prenez tout en compte, l'année 2021 ne sera pas non plus une super année pour notre monde. Bien vu, c'est ce qui s'appelle pas prendre trop de risques. Un signe, selon elle, devrait particulièrement trinquer en 2021. Les lions ont dû passer une sale année, si on croit en la parole d'Elisabeth Tessier. Est-ce qu'il y a des lions autour de cette table ?
Non. Non.
Il y a un lion en régie. C'est notre rédacteur en chef, Benjamin Delsa. Comment, Benjamin, tu résumerais cette année 2021 ?
Masqué.
Une année masquée, finalement, une année pourrie pour les lions, mais pour tout le monde. Voilà, c'est Elisabeth Tessier, c'est on croit aux étoiles, on n'y croit pas. Vous, Stéphane, faites partie des gens qui croient à ça. Hein.
Oui, je veux bien croire qu'il y a une influence, des caractères. Bah, vous y croyez, David, vous ?
Non, parce que en fait, ça se dit, mais si, il peut y avoir l'influence de la Lune sur pas quoi, etc.
Sur notre humeur, mais exactement. En fonction de nos signes, pourquoi ? Enfin,
oui, et puis surtout, en fait, si la Lune a une influence sur nous, tous les objets, la Tour Eiffel, par exemple, mais aussi.
Oui, voilà, parce que ça, c'est une différence. Regardez, voilà. Vous êtes tous les deux du même signe,
on
et vous êtes quand
même
très différents.
C'est vrai, ça ?
Bah oui.
On est un jour près.
Mais vous avez tous les deux réussi des vies exceptionnelles.
C'est le point commun. Finalement, non, nous croyons en l'astrologie.
Bon, en tout cas, merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Allez, il est l'heure maintenant de dire au revoir à nos personnages du jour, ces femmes qui avaient la tête dans les étoiles, pour retrouver des individus, disons, plus terre à terre.
Et en même temps, quand on veut farcir une dinde, c'est mieux de ne pas avoir la tête dans les étoiles, car il faut viser. Olivier, c'est pas un peu tôt pour farcir la dinde ? J'ai rien compris à votre sujet.
Mais on va pas farcir, on va parler du farcement.
Mais quel est le farcement ?
Et le farcement, c'est pas un plat farci. Mais non, c'est pas une farce, c'est un plat qui va nous emmener en montagne. Nous allons partir pour la Savoie et la Haute-Savoie.
Avant de chausser les après-ski, restons en plaine avec notre ami David Castello-Lopez qui nous entraîne aujourd'hui au cimetière.
Oui, je l'ai dit dans le sommaire, l'année dernière j'ai parlé des origines des cimetières pour chiens.
C'était plus niche comme sujet.
Et oh, très bien.
Merci.
J'ai jamais évoqué les cimetières pour gens. Or, quand même, les chiens c'est bien, mais les gens c'est quand même plus important. J'aime bien les cimetières, ça fait toujours un petit choc métaphysique dans le visage parce que d'un côté, il y a la mort, qui est un gouffre insondable sur lequel on n'a aucune prise. Et de l'autre côté, il y a l'aspect très prosaïque de la façon dont cette mort est gérée. Faut creuser des trous pour mettre les gens morts dedans, nettoyer les allées au balai, faire payer les concessions, enlever les gens des trous quand leurs concessions expirent et les jeter à la poubelle. Et cette cohabitation de l'infini et du trivial, ça me fait comme des petit frisson agréable. Mais je sais pas si tout le monde sait que les cimetières, ça a pas toujours existé pendant longtemps. Enterrer les gens, c'était vraiment pas l'option choisie le plus souvent. On faisait d'autres trucs avec les cadavres. Certains Indiens d'Amérique, par exemple, ils mettaient les cadavres dans les arbres.
Dans les arbres.
Oui, laissaient pourrir dans les arbres. Certaines tribus tibétaines elles mettent toujours d'ailleurs les corps en haut d'une montagne pour qu'ils soient mangés par les vautours. Des fois, on jetait les corps à la mer, ou même dans certains endroits du monde, tout le monde le sait, on mangeait les cadavres de façon super respectueuse. Alors, bien sûr, les premiers, peut-être ça vous donne faim, Olivier.
Calmez-vous, Olivier.
Alors, bien sûr, les premiers enterrements, ils sont très anciens, ils ont peut-être 100 000 ans, mais les premiers cimetières, c'est-à-dire des endroits où on enterre plein de gens, les uns à côté des autres, eux ils sont plus récents, entre 10 et 15 000 ans, ils datent en fait du moment où certains peuples en Afrique du Nord et Moyen-Orient, ils sont installés au même endroit sans bouger. Le mot cimetière, lui, il vient du grec koimeterion, qui veut dire dortoir. Et c'est vrai qu'un cimetière, c'est un peu un dortoir. C'est juste un dortoir où les gens sont vraiment sages, vous voyez, et pendant très longtemps. Les premiers endroits qui ressemblent à des cimetières tels qu'on les connaît, ce sont, à partir du Moyen-Âge, les petits espaces à côté des églises où on enterrait les morts. Pas n'importe quelle mort, hein, les morts riches, hein, les autres, on les foutait loin dans des fosses communes pour pauvres. Au passage, vous savez comment on appelle ces petits cimetières à côté des églises en anglais?
Non.
Les churchyards.
Churchyards.
Et vous savez comment on dit churchyard en danois?
Encore moins, du coup. Puisqu'on savait déjà même pas en anglais.
Kierkegaard. Ah, fun fact fou, hein.
Oh, gros fun fact.
Søren Kierkegaard, ça veut dire Søren cimetière. Mais le truc, c'est que peu à peu, ces cimetières d'église, ils ont commencé à être saturés de cadavres. Et ça, c'est nul. Parce que, par exemple, il arrivait qu'en cas de crue des rivières, les cercueils soient ramenés à la surface, ils s'ouvraient et on avait des cadavres qui flottaient partout. Je veux dire, visuellement, c'est intéressant, mais c'était pas le but. Alors, petit à petit, à partir du 18e siècle, les cimetières se sont installés à la périphérie des villes. Et c'est ce qui s'est passé à Paris, par exemple. Au 18e siècle, on a interdit les cimetières en ville. C'est comme ça que le cimetière des Innocents au centre de Paris a été mis ailleurs. Et c'est comme ça aussi qu'au début du 19e siècle, on a ouvert le cimetière Montmartre, le cimetière du Père-Lachaise, le cimetière du Montparnasse. Alors vous allez me dire, ils sont en plein Paris, ces cimetières.
Mais pas à l'époque.
Mais à l'époque. À l'époque, ils étaient tout juste en dehors des limites du Paris d'avant 1860. Le Paris où Charonne, Grenelle, les Batignolles, Passy, Montmartre, c'était des villes en dehors de Paris, comme aujourd'hui Montreuil, Saint-Ouen, Neuilly ou Boulogne. Et tous ces cimetières, si vous les connaissez, ce sont des endroits assez agréables et sympas. Ce sont en quelque sorte des parcs super bien aménagés où il se trouve que par ailleurs, il y a des gens décédés. Bon, aujourd'hui, vous savez, être enterré à l'ancienne dans un cimetière, c'est pas particulièrement tendance. La vraie pointe du cool maintenant, ce sont les inhumations éco-responsables.
Ah, qu'est-ce que c'est ?
Comme par exemple l'humusation. Hein, qui consiste à faire ce que l'on fait plus communément avec les épluchures de pommes de terre.
On devient du compost.
C'est-à-dire on transforme les gens en compost. Donc on met les cadavres sur des copeaux de bois qu'on a mouillés auparavant, on met des produits naturels qui accélèrent la décomposition, et au bout de quelques mois, la famille peut récupérer son être cher sous la forme d'une boue qui permet de faire pousser sa salade. C'est un beau progrès, c'est encore interdit en France, c'est toléré en Belgique. Donc voilà, je ne sais pas si peut-être je serais humusé, l'idée me plaît.
Non, parce c'est que là, il y a l'incinération aussi.
Il y a l'incinération, mais qui n'est pas très top au niveau. Parce que ça,
beaucoup de CO2.
Et puis surtout, elle consomme énormément d'énergie parce qu'il faut des fours à des températures très élevées.
Et pour la famille, c'est très éprouvant parce que vous êtes là à côté.
Mais il n'y a plus de place dans les cimetières, il faut trouver d'autres solutions. Les cimetières sont pleins à craquer.
Ouais. Exactement, c'est pour ça que ça coûte 15 000 euros de se faire enterrer au Père-Lachaise.
Ouais, parce qu'il y a de moins en moins de place.
Hein.
Vous savez combien il y a de gens qui sont enterrés au Père-Lachaise? J'ai vu ça, c'est assez marrant.
Non.
1 million.
Quoi? Non, c'est vrai.
Mais c'est qu'il y a 1 million de personnes au Père-Lachaise.
Ben si, c'est 1 million de personnes au Père-Lachaise. Mais c'est pas le cimetière le plus grand du monde. Le cimetière du plus grand du monde, il est à Najaf en Irak. Il s'appelle Wadi al-Salam. Et il y a 5 millions de gens qui sont enterrés.
Ouais. Là, il doit y avoir des fantômes, Stéphane. Ouais, il faut s'y balader.
Et sinon, il y a les catacombes aussi.
Oui, c'est vrai. Ça, on a enlevé les gens pour les mettre dans les catacombes.
Bah, merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Allez, faut manger si tu veux être un vrai montagnard. Olivier Pouls, notre expert gastronomique, nous raconte le farcement. Alors, personne autour de cette table ne connaissait l'existence de cela. Je pensais qu'il s'agissait de farcir, d'une technique pour farcir les dindes, notamment. Pas du tout.
Non, et on pourrait peut-être lancer d'ailleurs un message aux restaurateurs des stations de ski, mais remettez le farcement à la carte, parce que c'est quelque chose qui a complètement disparu, éclipsé évidemment par la fondue, par la tartiflette ou encore par les crozets. Le farcement a disparu. Pourtant, c'est un plat ultra typique de Savoie et de Haute-Savoie qui remonte très probablement au Moyen-Âge. Alors, l'idée du farcement, c'est quoi ? C'est un plat unique, évidemment, assez conséquent et plutôt roboratif, familial, qu'on avait l'habitude de préparer le dimanche et qui était composé, alors, en un premier temps, de rave, de choux rave, ou de légumes racines, de lard, et puis d'un petit peu de matière grasse et surtout de fruits secs. Et c'est un plat comme on en trouve beaucoup au Moyen-Âge, qui est un plat donc sucré-salé. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il est un peu moins tendance aujourd'hui. Et pourtant, quand c'est bien fait, je vais vous donner la racine dans un instant. C'est vraiment un plat.
Il y a des racines dans votre truc.
Oui, il y a des racines. Ouais, voilà. Et c'est vraiment un plat qui peut être absolument délicieux. Alors, je vous l'ai dit, il est né au Moyen-Âge. C'était un plat qu'en général, on préparait tôt le dimanche matin. On le déposait dans le four du boulanger. On allait à la messe. Et pendant que la messe se faisait, qui étaient des messes assez longues à l'époque, bah, le plat y cuisait. On le récupérait et on le rentrait. On le ramenait à la maison et on pouvait le manger. Et à partir du XVIIIe siècle, il y a un changement très important qui est intervenu dans la région avec l'introduction de la pomme de terre. Et le chou rave a été remplacé par la pomme de terre dans le plat qu'on fait aujourd'hui. Alors c'est un plat qui ressemble, on pourrait presque dire, à une grosse charlotte. Parce que le moule à farcement ressemble au moule à charlotte. Alors pour le faire, c'est pas très compliqué. Vous allez prendre des tranches de poitrine fumée. Très fine, vous allez en tapisser votre moule et vous allez faire un appareil, donc un mélange de différents ingrédients qui est constitué d'un kilo et demi de pommes de terre, de la pomme de terre que vous avez râpée, que vous râpez à cru, vous l'épluchez, puis vous la passez à la râpe et vous la pressez un petit peu entre les mains pour faire sortir l'excès d'eau et d'amidon. Vous allez y rajouter un oignon ciselé, une cuillère de farine, deux œufs cassés, évidemment battus, mélangés, un peu de raisin sec, un peu de pruneau dénoyauté, de la crème liquide, du sel, du poivre. Faites une belle pâte avec tout ça. Vous farcissez, vous remplissez en tout cas votre moule et vous laissez cuire ça à feu très doux, c'est-à-dire dans un four autour de 150-160 degrés pendant 4 heures. Et donc cette pomme de terre, elle va confire. Évidemment, la liaison va se faire avec l'œuf, avec la farine. Et le lard va apporter son petit goût légèrement fumé et va imprégner aussi de son gras.
Et lard, ça va bien avec les pruneaux.
Ben oui, lard, pruneau, pomme de terre, tout ça, ça fonctionne quand même admirablement bien. Alors, bien évidemment.
Pas de vin blanc là-dedans.
Non, il n'y a pas de vin blanc dans le plat. Il n'y a pas de fromage non plus.
Non, il y en a à côté.
Évidemment, à côté du plat, un petit peu de vin blanc, voilà. Mais surtout, c'est un plat très complet et je trouve que, enfin, moi, j'en ai pas fait souvent. Moi, j'en ai goûté une ou deux fois. C'est vraiment délicieux. Je peux vous garantir qu'après une bonne journée de ski, quand vous avez besoin de refaire un petit peu de calories et de refaire le plat en énergie, ça marche admirablement bien. Donc, faites du farcement et allez goûter du farcement en Savoie et en Haute-Savoie.
Plus ça va, plus je ne fais du ski. Que pour le repas qui suit.
Oui. Et donc
que
pour le forcément, éventuellement.
Sans culpabiliser.
Ben
c'est,
oui.
C'est pour ça que je pratique.
Ben vous savez, la tartiflette, on en a parlé, je vous en ai parlé, c'était la saison dernière. C'était un plat qui a complètement été inventé dans les années 70.
Le farcement est beaucoup plus authentique.
Le farcement est beaucoup plus authentique.
Il est moyenâgeux.
Moyenâgeux. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, c'est certainement la meilleure des farces. On va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter dans la lutte finale?
Oui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous connaissez le principe, est-il vraiment utile de vous le rappeler ? Une question pour chacun et en cas de départage, c'est celui qui donne la réponse chiffrée la plus proche de la solution. Olivier, vous voyez le prince Harry, vous voyez qui est Harry, vous voyez qui est Meghan.
Oui.
Et ben, quoi qu'il arrive, Meghan ne sera jamais princesse, vrai ou faux ?
Là, franchement, j'en sais rien du tout. Je suis pas comme vous.
C'est une subtilité anglaise.
Il doit y avoir une subtilité.
Oui, subtilité anglaise.
Peut-être liée à ses origines. Je dirais oui.
Bonne réponse. Oui, ça vient des lettres patentes de 1917 signées de George V. Selon laquelle on est princesse ou on ne l'est pas.
On ne devient pas princesse.
Seules les filles de sang royal portent le titre. Mais c'est vrai que maintenant, on les appelle toutes princesses, mais
elle ne sera jamais princesse.
Voilà, ouais. David, 26 avril 1986, c'est la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. La célèbre centrale n'a définitivement arrêté de fonctionner qu'en 2000. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Ou pas?
Et alors, je ne sais pas si c'est 2000, mais je vais dire oui.
Oui, il y avait 4 réacteurs. Celui qui a eu
où a eu lieu l'accident a été arrêté, mais les trois autres nettoyés ont redémarré la même année. Il y a eu un nouvel accident en 91, tout s'est arrêté depuis 2000. On sait que dans 24 200 ans, le site sera à moitié moins radioactif, donc voilà, gardons espoir. Mathieu Noël. Le groupe de punk des Sex Pistols n'a sorti qu'un seul album. Ça paraît aussi fou que la question précédente, mais est-ce que c'est vrai ?
Bah oui, c'est vrai. J'ai fait le portrait des Sex Pistols.
Oui. Et ça, Nevermind the Bollocks et the Sex Pistols, sorti en 77. Eh oui. Donc la question qui départage. La réponse la plus proche remporte la lutte finale. Bill Clinton a été président des États-Unis. On sait exactement combien il a envoyé de e-mails durant son mandat en tant que président. Combien ?
Bon, allez. 69.
Mathieu Noël dit 69.
Vous m'avez dit que c'était un chiffre qui ressemblait à 1000.
Alors, moi j'ai mis
57 890. Oui, vous êtes loin du compte. Et vous ?
Et moi, 1.
C'est David.
Bah, c'est 0, il en avait 0.
Non, il en a envoyé 2. Il en a envoyé 2. C'était les débuts du web, mais quand même, il a envoyé un mail aux troupes US en Adriatique, un autre à John Glenn qui était dans l'espace alors qu'il avait 77 ans, et Bill Clinton a déclaré « Je pensais qu'en envoyant peu de mails, le Congrès aurait moins de chances de retenir des charges contre moi.
Ah » Bien vu. Je regrette pas parce que j'ai eu peur d'avoir mis cette bêtise de 69, mais en fait, c'est David qui aurait gagné quand même parce que j'allais dire zéro. Moi, je pensais que le chiffre était rond, mais vous auriez gagné quand même parce que vous étiez plus près.
C'est David Cassel-Lopez qui remporte la lutte finale.
Et un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève ainsi. Il était consacré à ces femmes qui avaient la tête dans les étoiles. Vous-même, Stéphane, je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà taquiné le télescope ? Est-ce que c'est le genre de cadeau qui vous ferait plaisir pour vos longues soirées d'été à Thiron-Garde ?
Écoutez, je suis jamais contre un cadeau. Mais franchement...
Oui, mais vous le revendriez sur eBay, quoi.
Non, c'est pas mon genre. Non, je
mais vous en
pas,
foutez,
non.
Quoi.
J'adore observer les étoiles, mais de
à l'œil nu.
À l'œil nu, oui.
Bien
oui.
sûr, mais parfois nu aussi, dans votre jardin à Thiron-Garde.
Non.
Alors, demain, qu'est-ce qui nous attend, Stéphane ? J'ai demandé à Elisabeth Tessier, mais elle n'en sait rien du tout.
Ils se sont fait gifler.
Allons bon.
Comme vous dites, on réunit le pape Boniface VIII et la gifle restée dans l'histoire comme l'attentat d'un ami. Puis Philippe d'Orléans dit le régent qui a reçu une gifle aussi, mais de sa maman, la princesse Palatine, qui voyait d'un mauvais œil qu'il épouse une fille bâtarde du roi Louis XIV.
Et moi, je vous raconte une gifle plus récente et une gifle qui a fait le tour du monde, celle qui a reçu Chris Rock à la dernière cérémonie des Oscars, un événement qui a empêché David Castello-Lopez de dormir pendant plusieurs jours.
Oui, il nous en a parlé.
On se retrouve demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.